Amédée Achard, Madame Rose. Première partie. Parmi les villages que les jeux de la fantaisie et de la spéculation ont élevés aux environs de Paris, il n'en est peut-être pas de plus joli et de plus frais que Maison. La mode l'a un peu gâtée en multipliant les jardins et les cottages, mais elle n'a pu détruire ni la beauté de la Seine qui la côtoie, ni la majesté royale des avenues qui l'entourent. De longues allées bordées de grands arbres percent le parc dans toutes les directions et laissent voir, derrière un rideau tremblant de feuillage, des pavillons et des villas dans lesquels le luxe des propriétaires, gens de finance pour la plupart, a prodigué mille recherches coûteuses. Mais, au premier souffle de la bise, les hôtes frileux de ces habitations coquettes disparaissent. On ne voit plus personne à Maison, si ce n'est dans le village qu'empli de terrain des robes aux oisifs de l'été. Cependant, une de ces villas était encore habitée vers la fin du mois de novembre 1840. Cette villa, située en plein champ, à l'extrémité du parc et du côté de la Seine, se composait d'un seul corps de logis bâti au milieu d'un jardin clos de haies vives. Tout blanc et percé de fenêtres à persiennes vertes, ce corps de logis était élevé d'un étage sur rez-de-chaussée. Il avait l'air propre et honnête, et semblait destiné au logement de quelques bons rentiers retenus à Maison par l'énergie de ses goûts champêtres. Le jardin, planté de légumes et d'arbres fruitiers assez malvenus, était divisé en petits compartiments dont le buis dessinait les contours anguleux. Une tonnelle, un banc de bois et quelques peupliers encore jeunes en complétaient la décoration. Ce petit domaine était connu dans le pays sous le nom de la Maison Blanche. Il pouvait bien en avoir en tout une étendue d'un demi-arpent, mais la porte de son jardin passée, le propriétaire de la Maison Blanche avait autour de lui des promenades à fatiguer les jambes d'un écolier. Une grande prairie le séparait de la Seine. Le parc de Maison, avec ses bois épais, était là-bas, derrière la tonnelle, et plus loin, fermé par un grand mur qui court sous un bouquet d'ormes et de tilleuls, la forêt de Saint-Germain. L'hôte de la Maison Blanche était alors un jeune homme qui pouvait avoir une trentaine d'années et qu'on appelait Georges de Francalin. Le personnel de la maison se composait d'une vieille servante qui répondait au nom de Pétronille, grondait toujours, d'un vieux domestique grisonnant nommé Jacob, qui ne parlait jamais, et d'un chien de chasse de la race des Épagnols à robe blanche et feu. Tout le monde à Maison connaissait Tambour. Quel motif avait pu engager Georges de Francalin à prolonger son séjour à Maison bien au-delà du moment où chacun s'empresse de regagner Paris? C'est ce que personne ne savait. Était-ce pour échapper à l'agitation fiévreuse qui tourmentait alors la France entière? Avait-il été ruiné comme tant d'autres à la suite des événements de février? Cette retraite avait-elle pour cause un malheur domestique ou quelqu'une de ces infortunes printanières qui font verser tant de larmes et dont plus tard on se souvient en souriant? Jacob aurait peut-être pu le dire, mais Jacob, on le sait, ne parlait pas. Georges était arrivé à la Maison Blanche vers la fin d'avril avec Pétronille, Jacques et Tambour. Trois ou quatre grandes caisses remplies de livres l'avaient suivi. Il avait acheté un canot, un fusil, des vareuses, tout cet attirail de chasse et de pêche sans lesquels les jours à la campagne peuvent paraître longs, même les jours d'hiver, et bientôt on avait vu s'élever dans le bûcher une pile de bois propre à braver les neiges de décembre et les pluies de janvier. On sait qu'à Paris, un changement de domicile met dans les relations des barrières plus infranchissables que l'on mettrait jadis entre les Capulet et les Montaigu, la haine héréditaire de deux familles. En partant pour la campagne, Georges était donc parti pour l'exil. Deux ou trois de ses amis se souvenaient seuls qu'il habitait maison. Il vivait avec tambour et causait avec ses livres. Ses habitudes étaient les plus régulières du monde. Il ne savait jamais la veille ce qu'il ferait le lendemain. Il se couchait tard ou tôt, selon le temps, un jour avec le soleil et le jour d'après avec la lune. S'il partait avec l'intention de lire quelque chose dans quelque coin du bois, on le surprenait ramant sur la Seine avec l'ardeur inquiète d'un contrebandier. Il déjeunait tantôt chez lui, tantôt à l'auberge, ce qui, pour le dire en passant, faisait le désespoir de Pétronille, obligé de l'attendre auprès d'une côtelette qui noircissait sur le gril. Personne n'était plus actif ou plus paresseux. Il battait la campagne comme un chasseur ou restait étendu dans l'herbe comme un lazzarone, mais presque toujours, Tambour était de la partie. Il faut dire cependant que Tambour, sauf les jours de chasse, avait des mœurs un peu vieux vagabondes. Il ne demeurait au logis que les jours de pluie et n'y rentrait qu'au moment des repas. Il employait le reste du temps à courir de tous côtés, poussant toutes les portes et s'occupant des affaires d'autrui, avec une indiscrétion qui ne redoutait ni les remontrances ni les rebuffades. Aussitôt qu'on voyait apparaître quelque part un museau couleur orange, on s'écriait « Tiens, voilà Tambour !» Il donnait un coup d'œil par-ci, un coup de dent par-là, jouait avec les enfants, effrayait les poules, câlinait la cuisinière et disparaissait. On était alors, on le sait, vers la fin du mois de novembre. La campagne avait ses teintes pâles et voilées qui plaisent quelquefois plus que les couleurs vives et l'éclat joyeux de l'été. Il n'y avait presque plus de feuilles aux arbres, si ce n'est aux chênes tout couronnés de rameaux que les premiers froids avaient enduits de rouille. Le soleil se montrait à peine. À toute minute, de grands vols de corbeaux traversaient le ciel gris et remplissaient l'espace de leurs cris sinistres. Georges ne rencontrait plus dans ses promenades que le piéton chargé de distribuer les lettres et les pêcheurs avec lesquels il avait fait connaissance, mais cette solitude et l'âpreté de la saison ne lui rendaient plus cher et jamais peut-être il ne les avait faites ni si longues ni si fréquentes. Un matin donc, Georges était sorti d'assez bonne heure. Il portait son fusil et traversa la prairie dans la direction de la Seine. La chasse est prohibée en tout temps dans le parc et les dépendances de maison. Mais les chasseurs s'amusent quelquefois pendant l'hiver à tirer les oiseaux de passage qui s'abattent parmi les joncs du rivage ou qu'on surprend dans les cirques formés par le lit du fleuve. Telle n'était pas l'intention de Georges ce jour-là. Il avait un fusil parce que ce fusil s'était trouvé sous sa main au moment de quitter la Maison Blanche. Tambour avait regardé son maître et, comprenant au mouvement de ses yeux qu'on avait nul besoin de lui, il était parti, la queue en l'air, à la recherche d'un certain taureau noir auquel il avait déclaré la guerre. Le taureau, qui était jeune et de bonne mine, avait accepté le défi et, en pro-chevalier, il mettait autant d'empressement à courir au-devant de Tambour que Tambour en mettait à courir au-devant de ses cornes. Le taureau, ayant levé son mufle, avait flairé le chien et était parti au galop. Les deux adversaires se rencontrèrent à mi-chemin et le combat s'engagea sur le champ dans la prairie. Georges laissa les pagnoles aux prises avec le taureau et atteignit bientôt les bords de la Seine. Deux corbeaux qui creusaient l'herbe à coups de bec, cherchant leur pâture, partirent à sa vue. Georges les mit en joue et fit feu. Les deux corbeaux battirent de l'aile et s'enfoncèrent dans le ciel. « Oh, diable d'oiseau, il est écrit que je les manquerai toujours !» dit Georges en frappant du pied. Une bande de corbeaux s'éleva du bord de la rivière au bruit de cette double détonation et se mit à voler de tous côtés. Les uns passaient au-dessus de la tête de Georges, allant et venant, d'autres fuyaient à tire-d'aile du côté de la forêt. Quelques-uns, les plus hardis ou les plus jeunes, s'abattaient dans la prairie et couraient çà et là. Monsieur de Francalin rechargea son fusil et se mit à leur poursuite. Mais les oiseaux vigilants s'éloignaient bientôt, et quelle que fût son activité à les tirer, il ne put en atteindre aucun. Le chasseur s'entêta, et remarquant que les corbeaux traversaient le fleuve à toute minute, il pensa qu'il serait peut-être plus heureux en canot. Il courut vers une sorte de danse que la Seine avait creusée dans le sable et qu'une petite pointe de terre protégeait contre le remous. Un joli petit bateau peint en noir avec une raie blanche y flottait, la proue retenue aux racines d'un saule par une chaîne cadenassée. Le nom du canot, la Tortue, était écrit en belles lettres rouges sur l'arrière auprès du gouvernail, et Georges ouvrit le cadenas, sautant dans le canot, et poussa au large. Malgré son nom, la tortue filait sur l'eau comme une flèche, et poussée par l'impulsion vigoureuse des rames, elle eut bientôt gagné le milieu du courant, qu'elle remonta dans la direction de l'éperon boisé qui sépare le parc de maisons des tirs de Saint-Germain. Comme il ramait, Georges entendit le bruit d'un corps tombant dans l'eau. C'était Tambour que tout ce capage de coups de fusil avait attiré sur la rive et qui venait bravement de se mettre à la nage pour rejoindre le canot. Son maître l'attendit, l'enleva lestement et continua sa route, guettant de l'œil les corbeaux qui voletaient sur les deux rives. Une légère brume, qui depuis le matin flottait sur la campagne, se dissipa en ce moment et un clair rayon de soleil égaya le paysage. Parvenu à la hauteur d'Herblay, Georges laissa glisser la tortue au courant de l'eau et, accroupi à l'arrière, comme un pêcheur qui tend ses filets, il attendit, la main sur son fusil, que des oiseaux passassent à sa portée. Tambour, assis à l'autre bout du bateau, imitait sagement la complète immobilité de son maître. Il grelottait, mais on voyait quelquefois frétiller le bout de sa queue. La ruse de M. Francalin réussit. Bientôt, un corbeau arriva lourdement et passa au-dessus du canot. Le chasseur épaula et fit feu. Au premier coup, le corbeau s'enleva, et au second, il pirouetta sur lui-même, effleura l'eau du bout de ses ailes noires et alla tomber dans l'herbe à quelques pas du rivage. « Enfin !» s'écria M. de Francalin. Comme il se mettait debout pour bien reconnaître la place où l'oiseau se débattait, il entendit crier du côté d'Herblay. Il tourna la tête et aperçut un enfant qui venait de glisser dans la rivière et se tenait cramponné au bout d'une corde qui pendait le long d'un bateau. Une petite fille, penchée sur le bord de ce bateau, s'efforçait de retirer son camarade et appelait au secours de toutes ses forces. « À vous !» cria un homme dont la barque était en aval du côté de la frette. Monsieur de Francalin sauta sur les avirons et fit voler la tortue. L'eau jaillissait autour de la proue. À tout instant, il retournait la tête pour voir quelque distance qui le séparait encore des enfants. « Tiens bon !» disait-il. « Tiens bon, petite !» Il n'était plus qu'à quelques brasses du bateau lorsque les mains de l'enfant, engourdies par la fatigue et le froid, lâchèrent prise. La petite fille se pencha brusquement, le voyant disparaître, et passa par-dessus le bord. Le courant les prit tous deux et les emporta. Georges lâcha les rames et, ôtant sa vareuse, se jeta dans la rivière et Tambour sauta après lui. En quatre brassées, le chasseur eut atteint la petite fille que ses gros jupons de laine maintenaient à la surface de l'eau. Il la saisit vigoureusement par le bras et, nageant d'une main, il la déposa à bord du bateau. « Tiens-toi tranquille à présent, » dit-il, et il rentra dans l'eau, cherchant de tous côtés. On ne voyait rien que la surface du fleuve, çà et là rayée par un souffle de vent. « Cherche, cherche !» cria Georges à Tambour, qui nageait auprès de lui. Un léger bouillonnement, qu'il aperçut à quelque distance au-dessus de l'eau, lui indiqua la place où le petit garçon avait sombré. Il y poussa de toutes ses forces, mais déjà Tambour l'avait devancé et, plongeant tout à coup, il reparut bientôt, tenant dans sa gueule le pan d'une veste. Deux jambes inertes et deux bras sans mouvement pendaient aux deux côtés de son museau. Georges saisit l'enfant et le souleva hors du fleuve, sans que Tambour voulût lâcher prise, et tous deux arrivèrent sur le rivage où, sauveurs et sauvés, trouvèrent la petite fille qui pleurait à chaudes larmes. « Ah, mon Dieu !» disait-elle, « voilà mes jupons perdus. Maman va me battre !» Georges était fort embarrassé entre ses deux enfants dont l'un sanglotait tandis que l'autre ne donnait aucun signe de vie. « Mais c'est bon, » dit-il à la petite fille, « on te donnera d'autres jupes. Marche devant et mène-nous chez ta mère. » Mais tandis qu'il parlait, l'homme à la barque aborda près de lui et sauta sur le sable. « Ah !» dit-il, « ce sont les petits à la Thibaude. Ben, va drôlement les arranger, la brave femme. » Il souleva l'enfant que Georges frictionnait. « Bon, reprit-il, allez le cœur bas, il en sera quitte pour la peur. » « Bien sûr, Canada, » dit Georges. « Eh oui, te le voilà qui souffre déjà. Ajoutez un rhume à la peur, si vous voulez, ou ce sera tout. » Le pêcheur dépouilla l'enfant de ses habits tout trempés d'eau et l'enveloppa d'un caban de grosse laine. « Il faut pas qu'il se refroidisse, » dit-il. « Si mon caban souffre, on verra s'arranger. Et maintenant, en route, me charge du petit, allez, suivez la petite. » « Vous me semblez un peu pâle, avec ce vent-là, il fait pas bon pour vous ici. » Le fait est que M. de Francalin grelottait. L'eau dont ses vêtements ruisselaient était glacée, et le vent qui soufflait en rendait l'impression plus froide encore. Il ne répondit pas et se mit à marcher fort vite. Quant à Tambour, à qui sa conscience de chien rendait un bon témoignage, il courait en avant avec force gambade et fourrait son museau curieux dans tous les buissons. Au bout d'une centaine de pas, la petite fille s'arrêta court. « Voilà maman !» s'écria-t-elle. Et toute tremblante, elle se réfugia entre les jambes de M. de Francalin. Un groupe de femmes et d'enfants au-devant desquels courait une paysanne en jupon rouge parut au milieu du chemin. Toutes les femmes parlaient à la fois. Seule, celle qui marchait la première était muette. Les enfants faisaient grand bruit. « Ce n'est rien, maman, ce n'est rien, il est en vie !» cria la petite. La Thibaude l'écarta de la main et sauta sur le petit garçon comme une louve. « Mais c'était donc vrai ce que m'a dit la fille à Claude ? » s'écria-t-elle. « Jacques était tombé à l'eau. »« Eh oui, » répondit Canada. « Bon, puis il n'en est pas mort. » La Thibaude n'avait Dieu que pour le petit garçon et le retournait dans tous les sens. La violence des baisers maternels et la chaleur du gros caban avaient rendu la vie à l'enfant. Il ouvrit les yeux et se mit à pleurer. Sa mère, qui était toute blanche comme un linceul, devint rouge comme son jupon. Elle le coucha brusquement sur ses genoux et du revers de sa main lui appliqua une demi-douzaine de tapes vigoureuses qui sonnaient sur les chairs nues. « Voilà qui t'apprendra à tomber dans la rivière, mauvais garnement » dit-elle. Le petit Jacques ne pleurait plus, il criait. « Hé toi, que faisais-tu dans le bateau ?» poursuivit la Thibaude en cherchant sa fille du regard. Mais la petite fille se tenait blottie entre les genoux de M. Francalin et n'avait garde d'approcher. « Et pardi d'un jouet !» répondit Canada. « Est-ce que vous voulez empêcher des enfants de jouer à présent ?» Ça court après les morceaux de bois qui descendent de la rivière. Ça veut pêcher à la ligne avec des bateaux. C'est jeune, c'est étourdi. Puis ça roule dans l'eau. Moi, ça m'est arrivé 10 fois.
On vous parle pas, dit la Thibaude.
On me parle pas, mais je réponds. Au lieu de battre votre petit bonhomme, il m'est avis que vous feriez mieux de remercier monsieur, que voilà, et de caresser un peu ce brave chien, sans qui vous n'auriez pas eu la chance de le revoir, l'enfant.
La Thibaude, un peu confuse, se tourna vers M. de Francalin. Elle avait les yeux pleins de larmes.
Oh, « C'est donc vous, monsieur, » dit-elle. « Oh, si j'osais, je vous embrasserai de bon cœur. »«
Mais qu'à cela ne tienne, embrassons-nous, » répondit Georges, en joignant l'action aux paroles. « Et à présent que nous voilà bons amis, laissez-moi solliciter la grâce de cette petite fille qui a grand-peur d'être grondée. »«
Ben, c'est qu'aussi elle le mérite bien, toujours dans les bateaux, voyez comme elle est faite. »«
Bon, cela me regarde, » reprit Georges. « J'ai promis de l'aider à changer de jupe, et voici de quoi y pourvoir. » Il tira un louis de sa poche de son gilet. Mais en le donnant, il devint tout pâle et s'appuya contre un tronc d'arbre. Il lui semblait que tout tournait autour de lui.
« Diable, est-ce que vous auriez quelque idée de vous trouver mal ?» dit Canada.
« J'ai froid, » répondit Georges.
À ce moment, une femme qu'on n'avait pas encore vue s'approcha du groupe. Elle était couverte d'une robe fort simple, toute noire, et d'une pelisse de drap.
« Ah, voici Madame Rose !» s'écria la petite fille, qui, sans prendre garde à l'eau dont elle était inondée, courut vers la dame en robe noire et se jeta dans ses jambes.
« Il n'est pas arrivé de malheur à son frère ?» demanda Madame Rose à la Thibaude.
« Oh non, madame, non, le voilà, et voici monsieur qui l'a tiré de l'eau. »
Madame Rose regarda M. de Francalin. Georges voulut saluer, mais il chancela. Un nuage passa devant ses yeux et il tomba au pied de l'arbre. Quand il revint à lui, M. de Francalin était assis dans un grand fauteuil devant un bon feu. Il lui sembla que ses membres avaient retrouvé leur élasticité et leur chaleur. Canada était debout devant lui, tenant à la main un morceau de flanelle imbibé d'eau-de-vie, avec lequel il venait de le frotter vigoureusement.
« Mais où sommes-nous ? » dit Georges, en jetant les yeux de tous côtés.
« Pardine, vous n'êtes pas chez moi. Il faudrait chercher dans bien des maisons pour trouver ces beaux fauteuils et ces pendules avec des dames tout en or. Il n'y en a pas deux comme ça dans tout Herblay. » Et comme ça sonne, hein, oh, on dirait une petite cloche.
Midi, s'écria Georges. Bon, oh, Petroni va bien me recevoir.
Il fit un mouvement. La couverture dont il était enveloppé s'entr'ouvrit et il s'aperçut qu'il avait les jambes nues.
Dame, dit Canada en répondant au regard de M. de Francalin, il a bien fallu vous déshabiller de la tête aux pieds.
Est-ce que vous ne vous avisez pas de vous évanouir comme une demoiselle? Il y a une heure que je vous frotte, voilà le flacon, et voilà la flanelle. Le flacon y a passé tout entier, une autre vie qui ressusciterait un mort, et dont j'ai goûté pour voir. Mais la brose ne marchande pas sur la qualité.
Madame Rose. Ah oui, cette jeune femme en noir. Est-ce que par hasard je serai chez elle?
Tiens, vous n'avez donc pas regardé la pendule? À peine étiez-vous par terre qu'elle a exigé qu'on vous conduisît dans sa maison. Je vous ai pris sur mes épaules et me suis arrêté qu'après vous avoir mis dans ce fauteuil. Eh, la côte est roide. C'est en haut seulement que je m'en suis aperçu. Pauvre Canada. Ah, ça, je ne puis pas rester dans ce costume chez Madame Rose. Une couverture et rien dessous.
Oh, vous mettez pas en peine. On n'est pas riche, mais on a deux habits complets. Voilà des souliers où vous serez comme dans un bateau. Et une vareuse qui vous tiendra chaud sans vous étouffer. Mettez-moi ça.
Il étala les vêtements sur une chaise et se frotta les mains.
Eh, reprit-il d'un air sournois. Ça fait une bonne course et une heure de friction. La fatigue derrière, c'est la matinée qui est perdue.
Georges, qui connaissait Canada de longue main, sourit.
Bah, on vous revendra ça, dit-il. Oh, je ne porte de rien, s'écria Canada. Je sais bien qu'avec vous, on joue à qui perd gagne. Passez-moi cette chemise de laine, elle est chaud comme une toison.
Georges s'habilla en toute hâte. Il lui tardait de s'excuser auprès de Madame Rose et de la remercier.
Mais me semblait jolie, reprit-il, tout en bouclant le vaste pantalon du Canada.
Jolie, s'écria le pêcheur, avec l'expression du dédain le plus marqué. Jolie, en voilà une idée, mais vous l'avez donc pas vue? Il y a de jolies filles dans le pays, la Louison, la Catherine, la Pierrette. Mais Madame Rose, oh, elle leur ressemble comme un pied d'œillet à un bras d'oseille.
Diable, oh, vous riez, c'est peut-être parce que je l'aime. Mais je m'imagine que les reines des contes de fées doivent être faites comme Madame Rose. Il faut que l'eau de la rivière vous ait aveuglé pour dire de Madame Rose qu'elle vous a semblé jolie.
Un petit coup frappé à la porte interrompit Canada.
Qu'est-ce, dit-il?
Je venais savoir des nouvelles du malade. Comment va-t-il? Demanda une voix d'un timbre doux et argentin.
Canada courut à la porte et l'ouvrit. « Oh, vous pouvez entrer, il est debout et tout grouillant, comme un brochet, » dit-il.
Madame Rose salua Georges en souriant. « Vous n'avez plus froid, peut-être avez-vous faim. Voulez-vous déjeuner ?» dit-elle.
Monsieur de Francalin donna un coup d'œil à son costume, puis la regarda.
« Oh, à la campagne !» reprit-elle, avec un joli mouvement d'épaule.
La connaissance était faite. Georges accepta. Comme il suivait Madame Rose dans une pièce voisine où le couvert était dressé, Canada se pencha à son oreille.
« Eh bien, dit-il, trouvez-vous toujours qu'elle soit jolie ?»«
C'est vrai, répondit Georges. Joli n'est pas le mot. » Elle a je ne sais quoi, qui n'est pas cela et qui est mieux que cela.
Tiens, dit Canada, mais elle a son cœur dans les yeux.
C'était la première fois que Georges voyait Madame Rose, et maintenant qu'il l'avait regardée, il s'expliquait très nettement le sentiment bizarre de Canada. On ne pouvait pas dire de Madame Rose qu'elle eût une taille de déesse, la chevelure de cypris, un profil de camée et toutes ses perfections que les poètes accordent volontiers à leur divinité. Était-elle belle, était-elle jolie, on ne le savait pas. Elle séduisait par un charme singulier qui était en elle et qui vous enveloppait doucement comme la chaleur pénétrante d'un foyer où brille un feu clair. Ce charme ne provenait ni de la pureté de ses traits, qui n'étaient pas d'une extrême régularité, ni de la grandeur et de l'éclat de ses yeux qu'on pouvait voir sans être ébloui. Il provenait de l'harmonie, ce don si rare et si précieux. Il était impossible de désirer
qu'elle eût le nez plus fin ou la bouche plus petite. Il semblait que chacun de ses traits fût précisément ce qu'il devait être et qu'on les avait faits exprès pour elle. Le son de la voix répondait à l'expression du regard. Le sourire était bien tel qu'on l'espérait de ses lèvres, et quand on l'avait quitté, on ne pensait pas qu'il pût être mieux ou autrement qu'on ne l'avait vu. Le lendemain de cette première rencontre, Georges n'aurait pas pu dire si Madame Rose était brune ou blonde. Il lui semblait bien, en cherchant, qu'elle avait les cheveux châtain clair et les yeux d'un bleu foncé, mais il n'en était pas sûr. Il se rappelait seulement qu'elle avait une grande apparence de jeunesse, avec un air réfléchi qui augmentait la grâce de sa physionomie. Quand elle parlait, elle vous regardait bien franchement dans les yeux. Un joli sourire égayait le coin de sa bouche, qui semblait faite pour la vérité. Elle était naturellement joyeuse et vive, et cependant un voile de mélancolie était répandu sur son front, et son regard avait parfois quelque chose de triste et de plaintif, comme celui d'une colombe blessée. C'était moins une lueur qu'un éclair fugitif, mais il n'en fallait pas davantage pour comprendre que Madame Rose avait souffert, comme ces petites gouttes d'eau suspendues aux pétales d'un lys indiquent qu'il a plu. Monsieur de Francalin avait demandé à Madame Rose la permission de la revoir, ne fût-ce que pour la remercier de son hospitalité, et elle la lui avait accordée sans hésitation. Il retourna donc à Herblède le lendemain. Mais ce jour-là, Madame Rose était à la promenade.
« Elle y va souvent quand il fait clair, » dit une bonne femme qui avait soin du ménage. « Si vous voulez rencontrer Madame Rose, il faut venir vers 11 heures ou midi. »
Comme il descendait la côte d'Herblay, M. de Francalin aperçut Canada qui ramassait du sable dans la rivière. En 3 coups de rame, il fut auprès de lui.
« Si vous m'aviez hélé tout à l'heure, quand vous avez passé avec la tortue, je vous aurais évité la peine de monter là-haut, » lui dit Canada.
« Ah, vous saviez donc que Madame Rose n'était pas chez elle.
« Pardine, puisque je viens de la conduire à la ferme de l'autre côté de l'eau. »
« Et qui la ramènera ?»«
Moi donc, est-ce que j'ai pas des bras et un bateau ? Est-ce qu'il faut pas qu'on gagne sa pauvre vie ?»
Georges alluma une cigare à la pipe de Canada.
« Dites donc, mon vieux, si vous laissiez de côté votre perche et votre sable, j'ai là mon épervier, nous prendrions bien de quoi faire une friture en remontant la rivière. »
Le pêcheur regarda Georges en dessous et secoua d'un air fin les cendres de sa pipe.
« C'est-à-dire, monsieur Georges, que vous avez envie de me parler de Madame Rose. Vous êtes dit comme ça, je connais pas la Rose d'Herblay. Canada la connaît, alors faisons causer le vieux. »
Georges sourit.
« Eh bien, je suis bon diable, » reprit Canada. « Laissez-moi barrer mon sabot à quelques pieds de saule et je presserai à le fond le bord de la tortue. Nous ramènerons Madame Rose de compagnie. » « Ça m'empêche pas, » grommela-t-il en s'approchant du rivage, « que cette conversation va me faire manquer ma journée. Ce sable que je pêche est plein de ferraille et il y a droit à profit à le ramasser. »
« Mais est-ce qu'on ne sait pas que tout travail mérite salaire ? Venez toujours, » dit Georges. La barque attachée, Georges prit les rames, Canada l'épervier, et ils remontèrent la Seine dans la direction des tirés de Saint-Germain.
« Alors, ça, vous plaît-il de savoir ?» reprit le pêcheur.
« Pas un peu de tout. »«
Voulez-vous que je vous dise ma pensée, moi ?»
poursuivit Canada, sans s'arrêter à la réponse de M. de Francalin.
« Vous aviez tout à fait la mine d'un homme qui va devenir amoureux de Madame Rose. »
Georges haussa les épaules. « Faut pas faire le dédaigneux. Vous n'avez été certainement une certaine de personnes qui ne la valaient pas. Hein. On vient pas s'enfermer comme un ours à maison, par la bise et par la neige, sans qu'il y ait une femme là-dessous. » Georges rougit.
Bon, le votre visage m'a répondu. Bon, les feuilles vertes remplacent les feuilles mortes, et Madame Rose vous guérira, mais vrai Dieu, si je croyais qu'il dût lui arriver malheur à cause de vous, aussi vrai que voilà tambour, je culbuterai le canot et vous enverrai au fond de la rivière.
Merci, dit Georges.
Oh, c'est une manière de parler. D'ailleurs, vous êtes un brave garçon, et je vous veux pas de mal, au contraire. C'est seulement pour vous faire voir ce que c'est que Madame Rose pour moi.
Cela dit, Canada assura son pied sur l'avant de la tortue, souleva l'épervier et le lança dans l'eau.
Il faut vous dire, reprit-il en retirant les petits poissons qui grouillaient au cœur du filet, que Madame Rose habite Herblay depuis 1 an ou 15 mois. Il est arrivé au temps qu'on se fusillait dans les rues de Paris. Cette bonne femme que vous avez vue chez elle l'accompagnait. Alors j'ai pensé d'abord que c'était une dame de là-bas qui avait peur des émeutes. Bien sûr, me disais-je, son mari va venir, ils attendront que tout ça finisse. Mais le mari n'est pas venu.
Ah ? Fit Georges.
« Oh, il n'y a pas de hâte, répliqua le pêcheur en secouant la tête. Madame Rose est une femme du bon Dieu et il n'y a rien à dire sur elle. Oh, s'il a envie vous prendre vous marier, je vous en souhaite une qui lui ressemble. Et ramez plus fort, il n'y a que de la blanchaille par ici. Approchez-vous du bord, j'ai dit que nous trouverons des perches de ce côté. »
Bon, alors, donc, voilà Madame Rose installée à Herblay.
Mais attendez donc, vous allez plus vite que les violons. Elle descendit à l'auberge et chercha une maison à louer. Il y en avait une, justement, sur la hauteur, avec un jardinet. Le propriétaire venait de mourir et sa veuve la céda tout de suite à Madame Rose. Et que pensez-vous que fit Madame Rose? Eh bien, elle s'en alla chez Monsieur le curé. Et lui mettant un beau rouleau de pièces de 100 sous dans la main, « Monsieur le curé, lui dit-elle, voilà ce qui me reste sur l'argent que j'avais décidé au loyer de ma maison. Il faut que les pauvres profitent de ce que je gagne. Mais il y en avait pour 300 francs. 300 francs dans un temps où les écus étaient si rares que c'était comme des objets de curiosité. Et comme s'en allait, elle ajouta, « Vous leur direz de prier pour moi. » Ça, c'était trop, comme si Madame Rose avait besoin qu'on priât pour elle.
Georges regarda Canada. Cette chaleur et cette conviction de la part d'un homme qui avait un peu les mœurs d'un bohémien de rivière l'étonnait beaucoup. Mais le pêcheur, accroupi au bord du canot, n'y prenait pas garde et contemplait la surface de l'eau au-dessus de laquelle venaient crever de petits globules.
« Je vous dis qu'il y a des barbillons par là. Chut à présent !»
murmura le pêcheur. Il amorça la rivière en y jetant 2 ou 3 poignées de grains et apprêta silencieusement son filet. Quand il crut le moment convenable, il jeta l'épervier et découvrit au premier effort qu'il fit pour le ramener 2 ou 3 poissons qui se débattaient entre les mailles.
« Ah, ils sont beaux !» dit-il.
« Ça, vous l'aimez donc bien ?» dit Georges en aidant Canada à retirer l'épervier.
« Ah, ben la brosse, oh, il faudrait avoir un cœur de pierre pour pas l'aimer. Est-ce qu'on s'est pas avisé de me chercher chicane pour 4 mauvais lapins que j'avais pris au collet, là, dans les bois du gouvernement? On disait aussi que je pêchais en dehors des règlements. Et les lois, où étaient-elles dans ce moment-là? On en avait démoli la moitié, et le reste valait guère mieux. Et les autorités d'alors avaient-elles consulté les règlements pour entrer aux Tuileries? Alors je m'entête, je jette le papier timbré au nez des gendarmes, après quoi je vais sur l'eau tendre mes lignes de fond. Mais tout ça me conduisit en prison. Il n'y avait pas 30 sous au logis, et ma pauvre femme avait la fièvre. Oh, quand j'y pensais la nuit, j'avais des sueurs dans le dos. Enfin, je sors au bout d'un mois. Bien sûr, me disais-je tout en marchant, je vais trouver la baraque toute pleine d'huissiers et sans un clou pour pendre mes filets.
Ah ben oui, on n'avait pas dérangé une chaise, et ma pauvre vieille raccommodait mes chemises sur la porte. C'était Madame Rose qui avait payé l'amende et pris soin de tout. Oh, quand je vis ça, je courus tout droit chez elle. Madame Rose était dans son jardin avec un grand chapeau de paille sur la tête. J'avais arrangé un beau discours pour la remercier. Oh, j'oubliais tout et je sautais sur ses mains pour les baiser. Non, mais j'ai failli les casser. Oh, j'étais comme fou et je pleurais comme une bête. Oh, me dit-elle, vous m'avez fait peur. Je vis bien que mes gros vilains doigts lui avaient fait mal. Alors je me jetai à ses genoux. « Battez-moi comme un chien, lui dit, je ferai tout ce que vous voudrez. »« Eh bien, reprit-elle en riant, il ne faut plus prendre de lapin. » »« Et vous n'en avez plus colleté ?»« Moi, jamais. » »« Ah, par exemple, le gendarme n'y aurait rien fait, mais Madame Rose. » Elle me l'a défendu, c'est fini. Ça n'empêche pas que si je pouvais leur jouer quelques tours à ce genre qui m'ont mis en prison. Ça jette un gouvernement par terre et ça veut pas que le pauvre monde s'amuse un peu. Ça m'a mis du levain dans l'estomac, mais suffit, je m'entends. Et si l'occasion vient, on saura la prendre. Ça, mais comment donc s'appelle Madame Rose ? Reprit Georges, après qu'il eut laissé Canada exhaler sa colère.
Cette bêtise, elle s'appelle Madame Rose. Est-ce que ce nom vous paraît pas joli ?
Oui, très joli, mais c'est un petit nom, elle doit en avoir un autre.
C'est possible, personne ne lui a demandé. Elle a dit qu'elle s'appelait Madame Rose et tout le monde l'appelle Madame Rose. Au commencement, il y avait des curieux qui faisaient des questions comme vous. À présent, on n'y pense plus. Elle ne voit jamais personne. Si c'était un monsieur qui est venu deux ou trois fois en un an.
Et quel monsieur ? Dit Georges vivement.
Oh, monsieur comme vous, un monsieur qui paraît de la ville. Oh, quels yeux ! Quand il vous regarde, on dirait que ça vous entre dans le corps comme une vrille. Oh, ça doit être quelqu'un de ses parents. Il arrive vers midi et s'en va le soir. Par exemple, il part pas sans faire un tour sur la rivière, après quoi il me donne 20 francs. Oh, c'est un homme très bien.
Oh, Georges éprouva comme un sentiment de malaise. Ce monsieur de la ville lui gâtait Madame Rose.
Quelquefois encore, oh, c'est souvent même, poursuivit Canada. Le piéton remet des lettres à Madame Rose.
Mais remarquez qu'elle souriait de moins bon cœur ces jours-là. L'autre matin, elle en a apporté une au moment où elle se rendait à la messe. Elle l'a lue chemin faisant, et j'ai vu qu'elle devenait fort pâle. Elle est restée longtemps dans l'église à prier, et quand elle est sortie, elle avait les yeux humides comme ceux d'une personne qui a pleuré. Cependant, cette tête lui en sait la bande, aucun de ses parents, elle était cachetée de rouge. Bien ce jour-là, elle a vidé sa bourse entre les mains des pauvres. Moi, j'aurais volontiers battu tout le village, tant j'enrageais de l'avoir pleuré.
Canada donna un coup d'aviron contre un arbre.
Faire du chagrin à une si bonne créature, faut-il qu'il y ait de méchants gens, reprit-il.
Qui sait, dit Georges, la lettre venait peut-être d'un amoureux.
« Mais le dans l'âge où ces maladies vous prennent, » répliqua le pêcheur en branlant la tête. « Oh, cependant, j'y crois pas, vos amoureux. Madame Rose n'a jamais reçu d'autre visite que celle que je vous ai dite, et ces sortes de fous ont des jambes pour courir. Et puis, si Madame Rose a des secrets, ce serait mal reconnaître sa bonté que de chercher à les pénétrer. Même à présent, monsieur Georges, vous en savez autant que moi. »
Mais comment se fait-il que je ne l'ai jamais rencontré, moi qui cours le pays du matin au soir et que jamais vous ne m'en ayez parlé ?
Ben vous n'allez pas beaucoup du côté d'Herblay, monsieur, et c'est à Herblay que Madame Rose demeure. Quant à vous en parler, pourquoi l'aurais-je fait ? Vous êtes dans la saison où le cœur est de paille et je voulais pas vous exposer à prendre feu.
Canada jeta un coup d'œil sur la rive.
Bon, dit-il, oh, vous me faites bavarder, voilà l'aube des peupliers qui coupe la rivière, il va être 4 heures. Il faut nous hâter si vous ne voulez pas que nous fassions attendre Madame Rose.
Georges et Canada prirent chacun une paire d'avirons et firent voler la tortue. En quelques minutes, ils furent par le travers des tirets de Saint-Germain. Un long sillage marquait la course du canot.
Bravez toujours, dit Canada, je vais voir si Madame Rose est sur la rive.
Il se mit debout et aperçut Madame Rose sur un tronc d'arbre.
Ah, c'est vous, dit-elle en saluant Georges. Je comprends à présent pourquoi Canada arrive si tard.
Elle se leva et s'approcha du canot.
Voyons, reprit-elle, donnez-moi la main pour que je saute dans cette coquille de noix.
Madame Rose portait ce jour-là une robe de drap bleu, un grand camail et un chapelet rond de feutre gris à large bord. L'animation de la marche et le grand air avaient coloré son teint. Les boucles de ses cheveux tombaient le long de ses joues et sur son cou. Elle était charmante.
« Vous êtes donc venu me voir ?» reprit-elle en caressant de la main Tambour, qui frottait familièrement sa tête contre la jupe de drap bleu.
« Je vous dois bien cela pour le déjeuner que vous m'avez donné, » répondit Georges gaiement.
« Bon, il était un peu maigre pour un homme qui sort de l'eau. Aussi ne me prendrez-vous plus au dépourvu, et s'il vous plaît encore de sauter dans la rivière, au moins trouvez-vous des côtelettes. »«
Prenez le gouvernail, » dit Canada, « monsieur de Francalamois, je ramerai. »
Georges prit place à l'arrière et Madame Rose s'assit auprès de lui.
Je vous remercie d'avoir poussé jusqu'au tiret, dit-elle encore. La présence de votre canot me prouve que vous ne faisiez pas, en remontant à Herblay, une simple visite de politesse. Ce que vous avez fait hier m'a donné de vous une bonne opinion, et j'aurais été fâché de ne plus vous revoir.
Tout cela était dit avec un air de simplicité et de bonne humeur qui surprenait Georges et le charmait. Il regardait les yeux brillants et doux de sa compagne, et il se demandait quel mystère enveloppait cette florissante vie et retenait tant de séduction dans la solitude d'Herblay. Dans ce moment, Madame Rose avait les yeux tournés du côté de l'horizon où le soleil se couchait.
« Que c'est beau !» dit-elle, en montrant le ciel et le fleuve tout brillant des clartés mourantes du jour.
Georges fit signe à Canada qui suspendit le mouvement des rames et laissa la tortue descendre au fil de l'eau. Le canot était alors par le travers de la frette. On sait de quelle grâce mélancolique et de quelle beauté se revêtent souvent les soirs d'automne. Le silence n'était interrompu que par le babil et les rires de quelques petites filles qui jouaient autour de bateaux échoués sur la rive. Le vent se taisait. Il n'y avait d'animation que dans la prairie voisine, où des troupeaux de bœufs regagnaient les tables, poussés par un berger. 1000 couleurs éclatantes se fondaient dans le ciel. Madame Rose, tout entière à la magie de ce spectacle, promenait ses regards sur la campagne tout en feu. Georges regardait Madame Rose, et Canada regardait Georges. Tambour s'était endormi, bercé par le balancement insensible du bateau. Un dernier rayon glissa sur le fleuve et la lumière s'éteignit. Les teintes d'or firent place aux teintes violettes. Le village disparut dans la brume. On ne vit bientôt plus que cette clarté douteuse qui précède la nuit et flotte à la surface de l'eau. Les contours de la rive s'effacèrent doucement. Et comme Madame Rose tourna son visage vers M. de Francalin, elle montra des yeux inondés de larmes. Par un mouvement plus subtil que la pensée, Georges lui prit la main. « Mais qu'avez-vous ? » lui dit-il. Elle la lui laissa une seconde, puis la retirant sans affectation.
« Rien, dit-elle, je ne sais pas à quoi je pensais. »
Elle essuya sa paupière en souriant.
« Vous ne savez peut-être pas, dit-elle en le regardant,
que la petite Jeanne a la fièvre.
« Jeanne ?» répéta Georges.
« Eh oui, Jeanne, la fille de la Thibaude, celle que vous avez tirée de l'eau.
Comment, vous ne savez pas le nom des gens que vous sauvez? Et vous n'allez pas seulement prendre de leurs nouvelles ?»«
Oh, je ne voulais pas, par ma présence, faire croire à la Thibaude que j'avais un droit perpétuel à sa reconnaissance. »
« Eh bien, vous avez eu tort. Pourquoi enlever à cette pauvre mère la seule chance qu'elle ait de s'acquitter ?
La petite a pris froid dans l'eau. Ce matin, elle a dû rester au lit. Le médecin est venu et lui a fait avaler de la tisane. Et pour la consoler, j'ai dit à la Thibaude de lui acheter une poupée. Je lui ai donné un louis. Ça servira pour la tisane. Et c'est 10 francs que vous me devez. Je n'ai pas le droit de guérir toute seule les enfants qui vous doivent la vie. »
Cette manière délicate de le faire entrer pour moitié dans sa charité toucha M. le Francalin. Il fouilla dans ses poches pour en tirer 10 francs, mais il eut beau chercher partout, il ne trouva rien.
« Bon, dit-il, oh, cet imbécile de Jacob a vidé mes poches. »
« Eh bien, vous m'apporterez cet argent demain chez la Thibaude. Me voici chez moi. »
En effet, la tortue approchait du rivage. Un élan vigoureux la fit s'engager dans le sable assez loin pour que Madame Rose puisse sauter à terre sans craindre de se mouiller les pieds. Comme elle allait s'éloigner, Canada la retint par le bras.
C'est que j'ai aussi quelque chose à vous dire, moi, balbutia-t-il en roulant sa main au fond de sa vareuse.
Puis Canada s'arrêta court, la bouche ouverte.
Eh bien quoi ? Demanda Madame Rose.
Au fait, vous ne me mangerez pas. C'est que j'ai grande envie de vous prier, ainsi que Monsieur Georges, d'ajouter ces 10 sous aux 20 francs que vous avez donnés à la petite. Ils sont en cuivre. Bien sûr, ils tiendront pas de vos doigts.
Donnez toujours, mon brave Canada. Voilà 10 sous qui rachèteront bien des lapins, dit Madame Rose. Et après avoir serré la main calleuse du pêcheur, Madame Rose disparut dans la nuit.
Est-ce un cœur de femme, ça ? Dit Canada, quand il ne la vit plus. Vous voyez, elle me ferait donner tout mon bien.
« Oui, oui, répondit Georges tout bas, et vous pourriez bien avoir raison. »
Canada cligna de l'œil. « C'est à propos de ce que je vous ai dit ce matin que vous me dites cela.
Eh, prenez garde, monsieur, de moins jeune que vous soyez pris à ces hameçons, et quand on a mordu, c'est trop tard. »
Canada et Madame Monsieur de Franklin se séparèrent sans plus parler. L'un rejoignit sa barque, portant sur son épaule l'épervier plein de poissons, et l'autre regagna la crique où il avait l'habitude d'amarrer le canot. Dès les premiers bonds que Tambour fit sur le sable, il fureta comme un chien qui cherche une piste, flaira quelques touffes d'herbe et prit sa course à travers la prairie. Georges le suivit lentement. Ses jambes le portaient à la Maison Blanche, mais son esprit était à Herblay. Comme il approchait du chemin qui séparait son domaine de la prairie, il entendit de grands aboiements. Il releva la tête et aperçut de la lumière chez lui. Au même instant, la porte du jardin s'ouvrit et un jeune homme en sortit, caressant de la main Tambour qui faisait des bonds extravagants.
« Comme Thémistocle à la cour du roi des Perses, je viens te demander l'hospitalité, » dit le nouveau venu.
« Valentin !» s'écria Georges. Et les deux amis échangèrent un vigoureux poignée de main, tandis que le chien, émoustillé par ce témoignage d'affection, sautait sur les jambes de l'un et sur les bras de l'autre, leur marquant à sa manière toute la joie qu'il éprouvait de cette réunion.
« Ça, dit Georges, Jacob a-t-il préparé la chambre du désespoir ?»«
Elle est prête, » répondit la voix de Jacob.
« Mais alors, rentrons et dînons. Tu pourras gémir tant que tu voudras. »